Chapitre 28. Quand on emprunte la chaussée submersible, ce no man's land entre l'île et le continent, on peut s'imaginer dans un autre monde. Le fond de la mer ressemble à un territoire insondable, chaque fois différent. Grace traverse rarement à pied car cette idée l'effraie un peu, même par une si belle journée. C'est marée basse, elle progresse parmi les cris des huîtriers et des mouettes, tandis que sous un ciel d'un bleu rassurant, les rayons du soleil lui réchauffent le visage. Lorsqu'elle atteint l'extrémité de la chaussée, elle est essoufflée. Elle grimpe péniblement la dernière côte. Depuis le parking du port, elle aperçoit alors Marguerite, agenouillée dans le jardinet devant son cottage, occupée à tailler ses rosiers. La vieille femme chantonne doucement et sursaute en voyant approcher Grace. Elle se redresse, lève une main pour se protéger du soleil et sourit. Ah, madame le médecin, vous m'apportez mon traitement? Au fil des années, Marguerite a perdu ses marques avec le présent et il ne parvient plus à replacer les gens dans un autre contexte que celui dans lequel elle les a rencontrés. Ainsi, régulièrement, Grace redevient son médecin, celle qui lui apporte ses médicaments. « Non, non, pas aujourd'hui, » répond Grace. « Je voulais juste venir te dire bonjour. »« Entrez, entrez !» s'exclame Marguerite en lui prenant la main. La sienne est glacée, aussi froide que la terre. « Vous prendrez bien un thé. » Grace la suit jusqu'à la cuisine, à l'arrière de la maison. Pendant que Marguerite remplit la bouilloire, elle sort deux tasses du placard. La vieille femme les a rangées sans les laver, et de la moisissure verte s'étale désormais au fond. « Je vais juste les passer sous l'eau, d'accord ?» Marguerite acquiesce avec un sourire timide. Alors que son hôtesse attrape la boîte à thé sur une étagère en hauteur, Grace remarque un gros bleu sous son avant-bras, dont le centre violet foncé vire au verdâtre sur les côtés. « Aïe !» commente Grace en désignant l'hématome. « Ça a dû faire mal ?»«
Aïe, oui !» approuve gravement Marguerite. « Je suis tombée, tu comprends ? Je ne mens pas. Vraiment, je jure, c'est vrai !»
Ça aussi, c'est un vestige du passé. Une survivance de l'époque où Marguerite venait voir Grace avec une blessure et une excuse quelconque. Elle avait glissé sur une plaque de verglas, elle s'était cognée le front à une porte de placard. Et quand Grace l'interrogeait, cherchant avec douceur à lui soutirer la vérité, Marguerite se braquait.
« Je ne mens pas, c'est vrai ?»
Aujourd'hui, c'est très probablement vrai. Grace la croit, elle le lui dit. Et le visage de la vieille femme s'éclaire comme celui d'une enfant qu'on vient de féliciter. Dans le salon, pourtant, Marguerite semble inquiète. Elle ne cesse de se lever pour se poster à la fenêtre et surveiller la route derrière le parking.
« Je pense qu'il va bientôt revenir »,
marmonne-t-elle en serrant ses mains osseuses aux doigts déformés par le temps et les nombreuses fractures.
« Non, Marguerite, tu n'as plus à t'en faire »,
dit fermement Grace. « Il ne reviendra pas. »
« Non !»
souffle la vieille femme entre l'espoir et la méfiance.
« Viens t'asseoir, » ordonne Grace. « Assieds-toi et bois ton thé. Raconte-moi plutôt comment tu t'es fait mal au bras. Tu es tombée ? C'était dans la maison ou dehors ?»
Marguerite réfléchit un instant, puis secoue lentement la tête et porte un index tordu à ses lèvres.
« Tu fais quelque chose pour moi, je fais quelque chose pour toi. »
« D'accord. » répond Grace en s'interrogeant sur le tour que prend la conversation.
« Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?»
Mais Marguerite se contente d'applaudir en gloussant. Et Grace entreaperçoit la jeune fille qu'elle a dû être autrefois, jolie, coquette et insouciante. Elle était femme de chambre dans un petit hôtel miteux de Lille quand elle a rencontré Stuart, un chauffeur routier, colosse aux mains immenses et au sourire irrésistible. Il l'a convaincue de tout abandonner pour le suivre de l'autre côté de la Manche. La pire décision de sa vie. Marguerite est arrivée à Eyris en 1992. Grace l'a rencontrée l'année suivante, l'année des tempêtes. L'année où Nick Riley a débarqué sans prévenir au cabinet de Grace. Dire qu'elle a été surprise serait un euphémisme. On pourrait plutôt parler d'état de choc, de stupéfaction, de sidération.
Il n'empêche que Grace continue de se reprocher de n'avoir pas été suffisamment attentive la première fois que Marguerite est venue la consulter. Elle voulait des antidouleurs après un accident, une grosse chute à vélo. Avec le recul, Grace sait bien qu'elle aurait dû en faire plus pour sa patiente. Elle aurait dû insister, elle aurait dû poser plus de questions. Elle n'aurait pas dû laisser Marguerite la persuader qu'il n'y avait rien de bizarre là-dedans et qu'il n'était vraiment pas nécessaire de contacter la police. Pourquoi faire une chose pareille? Elle était simplement tombée. Je ne mens pas, c'est vrai. Grace était distraite. Elle a accepté l'excuse de Marguerite, tout en se faisant la réflexion que si cette histoire de chute pouvait expliquer une côte fêlée, voire une fracture de la pommette et une dent cassée, elle ne collait pas avec les nombreux bleus violacés en forme de traces de doigts que Marguerite arborait au cou, au bras et aux cuisses. Marguerite est de nouveau à la fenêtre. Elle regarde au loin vers la mer. « Lille ne se souvient pas », déclare-t-elle à Grace, qui hausse les épaules pour signifier qu'elle n'a pas compris. La vieille femme répète alors sa phrase en anglais, et Grace réprime un soupir. Elle a peu de patience pour ces discussions décousues qui ressemblent à des devinettes. Comme l'autre la dévisage dans l'attente d'une réponse, Grace secoue la tête et Marguerite se détourne. « Je pense qu'il va bientôt revenir », souffle-t-elle tout bas. Le plus triste, songe Grace, le plus cruel dans tout cela, c'est que si Marguerite se souvient de Stuart, elle semble avoir oublié son autre compagnon, celui dont elle est tombée amoureuse après que son mari a été envoyé en prison. Cet homme est mort désormais, mais ils ont vécu plusieurs années de bonheur ensemble. Hélas, au lieu de se remémorer avec tendresse le fermier doux et galant qui l'a tant aimé, elle reste devant la fenêtre, terrifiée, pétrie d'angoisse, à attendre éternellement le retour de son bourreau. Lorsque Grace s'en va, Marguerite la raccompagne jusqu'à la porte et lui prend la main sur le seuil. « Où est passé ton ami ? » demande-t-elle perplexe. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» « Il n'est rien arrivé, Marguerite, » répond Grace en se dégageant doucement. « Tu n'as plus à t'en faire à présent, tout va bien. » Le soleil brille d'une lueur pâle, bas dans le ciel, et Grace doit marcher avec un bras en l'air pour ne pas être aveuglée. À l'arrière de son crâne, elle sent une migraine arriver. Elle a l'impression qu'on lui a tiré les cheveux. Elle avance d'un pas lourd, épuisée. Elle commence à ressentir les effets de ses excès de la veille. Elle a dit à Marguerite que tout allait bien, ce qui est évidemment faux. La vieille femme ne s'en sort plus toute seule. Elle pourrait faire une mauvaise chute, oublier d'éteindre le gaz et déclencher un incendie, ou encore se rendre malade à force de manger dans de la vaisselle sale. Grace devrait téléphoner au cabinet médical lundi pour demander qu'on envoie quelqu'un évaluer la situation. Ce serait le plus raisonnable, non? Mais ce serait aussi odieux. On expulserait la pauvre Marguerite de son petit cottage pour l'enfermer dans un horrible foyer pour personnes âgées. Hors de question. Grace préfère que Marguerite reste ici, sur le port, afin de pouvoir veiller sur elle. Sur la chaussée abritée du vent par l'île qui se dresse devant elle, l'air est froid et humide. Quelque chose remue dans le sable sur la droite de Grace et elle sursaute. Son cœur s'emballe. Mais il n'y a rien. Ce n'est que la lumière rasante qui transforme les ombres en monstres éphémères. Grace accélère le pas en levant la tête vers la maison. De là où elle est, on ne voit que l'avancée étroite de la cuisine. La bâtisse paraît toute petite et sans défense. On pourrait croire qu'il suffirait d'une forte marée ou d'un violent orage pour l'emporter dans les flots. L'année où Grace a rencontré Marguerite, il y a eu deux tempêtes particulièrement dévastatrices. La maison a survécu aux deux, bien qu'une des granges ait perdu son toit dans la bataille. La première tempête a eu raison du plus vieux sapin du bois. Ses immenses racines ont laissé derrière elle un trou béant dans la terre. La seconde a arraché trois autres arbres et avalé une partie de la chaussée. Des mois plus tard, cette dernière a enfin été réparée. Mais dans les forêts, il a fallu d'interminables années pour que les cadavres des colosses reviennent à la terre. Vanessa n'avait pas connu l'île avant les tempêtes, mais Grace si. Grace se souvient d'Eris avant la chute des arbres et après, avant l'effondrement de la chaussée et après sa réfection. Elle voit ses cicatrices, et elle est peut-être la seule. Les gens aussi portent ce genre de cicatrices, non? À la surface ou en profondeur, il demeure toujours quelque chose, une marque à l'endroit où notre chemin a bifurqué, où notre vie a irrémédiablement changé. Pour Marguerite, c'est le moment où elle a quitté son pays natal pour s'installer en Écosse. Puis, plus tard, l'emprisonnement de Stuart qui lui a rendu sa liberté. Pour Vanessa, c'est son arrivée sur Eris, la disparition de Julian et tout ce qui s'est ensuivi. Journal de Vanessa Chapman. Il y a un vide dans cette maison qui me paraît terriblement triste. Je me rends à l'atelier dans le noir et j'en ressors dans le noir. Je tourne et retourne tout dans ma tête. Je croque, j'écoute, je regarde, j'attends. Rien ne vient, personne ne vient. Tout est immobile, à part la marée.